J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimaï au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de nous faire confiance dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs sur Radio Kapi, la fréquence de la paix. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce programme. Désormais, les chefs de représentation diplomatique en République démocratique du Congo sont obligés d'avertir le ministre des Affaires étrangères pour tout déplacement à l'intérieur du pays au moins une semaine avant. C'est ce qu'ont décidé les autorités de Kinshasa après l'assassinat de l'ambassadeur italien la semaine dernière. Alors, comment commentez-vous cette actualité à l'adresse pa@radiocapi.net. Rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 4969 ou bien au 081 890 6330 pour votre intervention en direct. Vous avez également l'occasion d'interagir avec l'ensemble d'internautes sur www.radiocapi.net ou encore sur notre page Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie en ce début de semaine. Marcel Ngombombala et Polydor Basunga concourent à la production de cette émission coordonnée présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Monsieur Augustin Mangemo, si vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes chef des travaux dans les universités. Alors, d'entrée des jeux, quels commentaires pouvons-nous faire par rapport à cette situation lorsque des bruits courent de partout en se posant la question, quel est le rôle d'un ambassadeur dans un État?
Monsieur Gilles, bonjour. Bonjour aux auditeurs de la Okapi. Et aussi, je commence d'abord par présenter les condoléances. Les condoléances à la famille éplorée, c'est-à-dire la famille de l'ambassadeur. Et aussi, je présente des condoléances au peuple congolais. Vous savez que depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais ne cesse de pleurer. Chaque jour, il y a des tueries à l'Est. Et au fait, jusqu'à la preuve du contraire, on n'a jamais résolu cette équation. Mmh. Voilà comment l'ambassadeur est tombé. Et c'est maintenant, c'est presque tout le monde qui se réveille pour dire non, il y a insécurité à l'Est. Non, il y a insécurité depuis plus d'une dizaine d'années et qu'il faut trouver la solution au problème. Alors, quant aux commentaires que nous entendons ça et là, au fait, je ne peux pas, moi, scientifique, aller dans ce terrain-là. Parce qu'un scientifique a besoin de preuves. Quand vous avez des preuves, vous pouvez les expliquer ou les mettre à la disposition du grand nombre. Et quand vous n'avez pas de preuves, il vous est demandé non seulement de la retenue, mais aussi de l'analyse. L'analyse faite de la situation, en fait, il se dégage que l'ambassadeur était dans la partie est de la République sur invitation du programme pour l'alimentation mondiale, PAM en sigle. C'est le programme, le PAM qui l'a invité, et c'est le PAM qui devait en temps normal assurer sa sécurité. Bien que l'ambassadeur se trouvant sur le territoire congolais, le PAM aurait prévenu les autorités congolaises sur la présence d'un diplomate dans un champ qui était catégorisé comme une zone à haut risque. Je ne sais pas si le PAM l'a fait, partant des autorités congolaises, mais moins encore de la MONUSCO. Ça, je ne le sais pas. Donc, c'est vraiment un drame que nous condamnons énergiquement, mais hélas, c'est arrivé, il faut tirer les conséquences.
Voilà. Alors, donc, est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu à chacun de nous les rôles que joue l'ambassadeur, la tâche de l'ambassadeur?
Ah, ok. Vous savez que l'ambassadeur dans un État, il a 5 rôles. 5. Il y en a 5 selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Du 18 avril 1961, ratifié, bien entendu, le 21. Alors, l'ambassadeur, quand il est dans un État, il est d'abord le représentant de son État. C'est-à-dire l'ambassadeur représente l'État vis-à-vis des tierces, c'est-à-dire vis-à-vis de l'État accréditeur. Il représente l'État, c'est-à-dire son État. Ensuite, l'ambassadeur, en dehors de représenter son État, l'ambassadeur est appelé à pouvoir représenter ses citoyens, c'est-à-dire la population qu'il est censé représenter dans cet État-là. L'ambassadeur a aussi les fonctions de pouvoir s'informer de tout ce qui se passe sur le territoire et aussi de nouer des relations amicales dans le pays accréditaire.
Voilà. Alors donc, l'ambassadeur qui autrefois était appelé ministre plénipotentiaire. Alors d'abord, pourquoi on les appelait ministre plénipotentiaire?
Monsieur Gier, les agents diplomatiques, le chef de mission diplomatique sont plénipotentiaires parce qu'ils ont les pleins pouvoirs. Mmh. Quand on dit plénipotentiaire, c'est par rapport au plein pouvoir. Il y a des ambassadeurs qui sont
plein pouvoir. Quel plein pouvoir?
Plénipotentiaires. Il y a aussi les ambassadeurs qui sont ordinaires. Alors, il faut voir les degrés de représentation. Une mission diplomatique peut être aussi représentée par un chargé d'affaires. Mmh. AI, ou ça peut aussi être représenté par ce qu'on appelle les ministres conseillers. Mmh. Les ministres conseillers. Mais la fonction ou les fonctions essentielles d'une mission diplomatique sont d'abord la représentation, mmh, représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditeur, protéger dans cet État-là, dans l'État accréditaire, les intérêts de son État et de ses ressortissants, négocier avec le gouvernement de l'État auquel il est accrédité, s'informer par tous les moyens. Là, on parle des moyens licites, mais vous savez vous-même qu'ils partent aussi avec les... ils exercent aussi les moyens illicites. Mmh. Mais la Convention de Vienne nous parle des moyens licites, tous les moyens licites qui peuvent mettre à leur disposition pour enfin aider l'État qui les a accrédités à comprendre ce qui se passe. Enfin, promouvoir les relations amicales et de développement des relations économiques, culturelles ou scientifiques entre l'État qui l'a accrédité et l'État par où il est en accréditation. C'est ça.
Alors, ils sont tenus à quelles réserves? Quelles sont les limites de leurs actions?
Ah, au fait, les articles, quand vous vérifiez et vous lisez la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les articles 25, 23, 24, 25 ne donnent pas de limites d'accréditation dans un État. Ils peuvent circuler sur l'étendue du territoire sous réserve.
Donc ils peuvent circuler.
L'autorité qui les a accrédités.
Donc ils peuvent circuler partout là où ils représentent leur État, ben que ça soit dans l'ordre, c'est-à-dire informer l'autorité sur place.
Oui. Ils doivent sous réserve, d'ailleurs sous réserve de la sécurité nationale, ils ne peuvent pas se retrouver partout. Si la zone dont l'ambassadeur veut visiter, c'est une zone rouge, ce que nous appelons en géopolitique une zone à haut risque, l'ambassadeur ne pourra pas aller là-bas de son gré. Il doit nécessairement informer l'État, l'État accréditeur, et que l'État accréditeur puisse lui donner les moyens de sécurité.
Alors, à quoi ça sert l'accord de siège?
Non, l'accord de siège, c'est
pour les cas, par exemple, de l'Italie.
État et une organisation internationale. Mmh. Ou, dans les cas spécifiques, c'est entre l'État, que je peux expliquer, la RDC et les Saint-Sièges. Mmh. Les Saint-Sièges n'est pas l'Italie. Le Saint-Siège, c'est le Vatican. Mmh. Nous avons un accord de siège qu'avec le Vatican. Et avec l'Italie, nous avons l'accord, les accords qui sont...
dans la Convention.
D'abord, on a commencé avec les accords bilatérales. Mmh. L'accord bilatéral entre la RDC et l'Italie. Et dans le cadre de l'Union européenne, parce que l'Italie est membre de l'Union européenne. Mmh. C'est-à-dire l'Italie...
Alors, on est en train de vous perdre, Augustin Manguem aussi. Est-ce que vous pouvez pas changer votre position? Alors, on a des petits soucis avec la ligne de Augustin Manguem aussi qui expliquait avec l'Italie. Nous avons d'abord un accord bilatéral en tant que deux États et avec l'Union européenne parce que l'Italie est membre de l'Union européenne, c'est-à-dire l'État congolais a l'accord de siège avec l'Union européenne et également comme l'Italie, le Vatican qui se trouve en Italie. C'est avec le Vatican que l'État congolais a signé un accord de siège. Avant de retrouver notre invité, on va accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints et parce que ce débat est très passionnant et ça a suscité l'intérêt auprès de plusieurs d'entre vous. Vous êtes nombreux en tout cas à avoir lu et commenté ce sujet. 15 000 ont été touchés par ce sujet. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Marie-Paul, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez suivi notre invité et comment commentez-vous cette actualité?
En fait, monsieur le journaliste, la décision des autorités de Kinshasa est en harmonie avec les conventions de Vienne de 1961 et de 1963. Et ces conventions soumettent tous les diplomates qui se trouvent dans un pays accrédité, que nous appelons le pays d'accueil, d'être soumises au régime d'autorisation pour toutes les activités que ces ambassadeurs, pourquoi pas ces diplomates, veulent entreprendre dans ces pays accrédités. Mais toutefois, il faut peut-être relever, parce que je vois dans, lorsque je lis aussi les commentaires, lorsque nous entendons sur les réseaux sociaux, ici, les conventions de Vienne ne demandent pas aux États, ou ne demandent pas à l'État d'accueil d'influencer ou d'exercer ces influences sur les missions diplomatiques. Parce que, comme vous le savez bien, les missions diplomatiques relèvent justement des droits diplomatiques. C'est un État dans un État. Lorsque nous sommes dans une mission diplomatique, nous devons savoir qu'il s'agit là de la cohabitation d'un État auprès d'un autre. Il ne faut pas que les autorités des pays d'accueil commencent à exercer l'influence sur ces autorités. Néanmoins, les conventions de Vienne demandent tout simplement aux diplomates par les us et coutumes, par l'élégance, de pouvoir informer tout simplement des activités que les missions diplomatiques dans un pays accrédité sont en train de faire.
Donc vous estimez que c'est par élégance? C'est ça l'esprit et la lettre des dispositions de la Convention de Vienne?
Justement, on doit tout simplement...
Mais le communiqué des autorités de la RDC n'a pas cet esprit-là. C'est une obligation.
Les autorités de la RDC ne peuvent pas s'entendre à une autorisation quelconque. Non. Si les autorités, c'est juste sur l'information. Lorsqu'on informe, ces autorités doivent prendre toutes les dispositions pour sécuriser les ambassades, pour sécuriser les diplomates qui se trouvent en RDC. Parce que, comme vous le savez, sur la mort de l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de l'Italie, c'est vraiment un incident diplomatique qui est très grave. Parce que il y a eu des voix qui se sont levées au motif que non, écoutez, la mission, l'ambassade italienne n'avait pas informé le gouvernement de la RDC. Non, c'est faux. Parce qu'un ambassadeur qui est formé, qu'un diplomate qui est formé, ne peut pas faire un mouvement en dehors de la capitale sans que les autorités, sans que le ministère des Affaires étrangères ou sans que le ministre des Affaires étrangères soit informé. Moi, je pense que nous devons éviter, mais lorsqu'on informe, le pays d'accueil doit prendre toutes les dispositions pour sécuriser l'ambassadeur. Et cela ne nécessite pas qu'on demande à l'ambassadeur de ne pas aller. Et aussi, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a des zones rouges.
Voilà, merci beaucoup, Marie-Paul.
Oui, il y a des zones rouges que les ambassadeurs ou les diplomates qui se trouvent dans un pays accrédité ne peuvent pas aller, bien qu'ils ont la liberté de circuler partout ailleurs dans les pays où ils sont accrédités, mais dans des zones rouges, on ne peut pas, un ambassadeur ou un diplomate ne peut pas aller dans ces zones-là parce que
ça qu'on assure sa sécurité.
Lui-même ne sera pas mobilisé.
Merci beaucoup. Pour les sécuriser. Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, Alfred, vous nous avez également rejoint, vous êtes à Calémie. Bonjour, Alfred.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quel est votre avis, à Alfred?
Merci de nous avoir associés. Premièrement, je dirais que la décision est salutaire parce qu'elle vise à protéger les ambassadeurs. Mais ce que nous déplorons de la part de notre gouvernement, monsieur le journaliste, c'est la prise de décision après une quelconque conséquence, qu'une quelconque conséquence vient dans les pays. Le gouvernement étant l'une des institutions qui participent au bon fonctionnement et à la bonne organisation de la paix et de la sécurité dans les pays, doit prévoir certaines situations avant les conséquences. Car dit-on par ailleurs que vaut mieux prévenir que guérir. Donc, n'eût été cette catastrophe, cette décision ou proposition ne serait pas envisagée. Donc, selon moi, en toute somme, je dirais, au-delà d'abord au-delà de la décision pour les ambassadeurs, le gouvernement doit pouvoir établir la paix dans certaines régions en trouble. Parce que quand il n'y a pas la paix, d'une manière ou d'une autre, on pourrait toutefois tomber dans des circonstances pareilles.
Merci voilà beaucoup, Alfred. Vous avez également évoqué la responsabilité du gouvernement. Alors, Christian nous a rejoint, qui abonde, en tout cas dans son commentaire, dans le même sens. Christian, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour à l'invité.
Alors vous avez dit dans votre commentaire qu'au-delà de la procédure classique régissant les missions diplomatiques dans les mondes, vous croyez que cette situation soulève bien entendu des questionnements sur la responsabilité du gouvernement congolais. Lesquels ? Laquelle responsabilité ?
Évidemment, au-delà, bon, écoutez Jean-Luc Ngembo, déjà un ambassadeur étant un sujet, disons, un national étranger, a ce qu'on appelle la liberté de circulation. Et donc cette liberté de circulation fait automatiquement appel à la protection du gouvernement congolais par les services concernés, c'est-à-dire les services de la sécurité et consorts. Mais au-delà de ça, le fait que le gouvernement congolais a précisé par l'entremise du protocole,
le protocole d'État, la ministre, et puis ensuite le protocole d'État.
Voilà, le protocole d'État a précisé le fait que l'ambassadeur a fait ses déplacements à l'est du pays en catimini. Donc voyez-vous, donc cela veut dire que cela automatiquement ces déplacements relèvent ou réveillent.
Oui, est-ce que quelque part, Christian,
il y avait un agenda caché derrière ça, parce que lui étant un officier de ses rangs, il devrait normalement au-delà d'informer les autorités, mais il allait bénéficier d'une protection sécuritaire. Mais à partir du moment où il n'a pas pu bien informer ou où il a fait ses déplacements en catimini, et automatiquement, nous nous posons la question sur son déplacement. Mais au-delà de la responsabilité du gouvernement congolais, il y a encore une autre responsabilité qui est celle de la MONUSCO. C'est vrai, la MONUSCO vient en appui et la MONUSCO ne remplace pas les gouvernements congolais, moins encore l'armée. Mais seulement, selon les analyses faites par votre ancien collègue Innocent Olenga dit que cet ambassadeur a fait ses déplacements de l'est du pays à bord de l'hélicoptère de la MONUSCO. Donc on sous-entend que la MONUSCO, en prenant ces risques, la MONUSCO devrait normalement le protéger en lui donnant des casques bleus susceptibles de les protéger tout au long de ses parcours. Donc, finalement, dans ses habitudes, cet ambassadeur, certainement, il a également roulé la MONUSCO. Voilà pourquoi il s'est retrouvé lui-même seul. Et automatiquement, Jérôme Nguyen cette mort fait automatiquement appel ou encore relance les débats sur la vraie mission ou encore les vraies raisons des multinationales sur les sols congolais. Et donc, cette mort doit faire comprendre aux uns et aux autres que vraiment nous devons automatiquement prendre conscience de tous les enjeux qui fait que les morts, les interminables morts soient vraiment une monnaie courante. Il y a une responsabilité je dirais des multinationales, et derrière les multinationales il y a également certains organismes qui sont également des tireurs de ficelles. Donc aujourd'hui, il ne faut pas seulement chercher à condamner les uns et les autres, mais beaucoup plus, il faut combattre les sources ou encore les causes principales de tous ces massacres. L'ambassadeur et moi, nous avions vu un tollé, mais les Congolais meurent tous les jours et le nombre de morts des Congolais dépasse de loin le nombre des génocides au Rwanda. Alors pourquoi ne pas utiliser cet élément pour faire taire définitivement des armes? Donc je crois que cet élément de la mort de l'ambassadeur est un appel ou encore un élément qui va désormais faire comprendre à l'opinion tant nationale qu'internationale que la guerre de la RDC a été une guerre imposée à cause de ses richesses, et désormais nous devons tous
mobiliser nos efforts pour mettre fin à ça. Merci beaucoup.
Sur l'ensemble du territoire national.
Merci beaucoup Christian Politassi d'avoir appelé de Kinshasa 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Augustin Mangemoussi, chef des travaux à l'ULK et dans d'autres universités de Kinshasa. Alors, vous êtes avec nous, vous avez suivi les auditeurs, en tout cas les uns et les autres, Marie-Paul, Alfred et Christian. Le sentiment qui se dégage, au fait, c'est d'abord, il faudrait dégager les responsabilités des uns et des autres par rapport à cette question sur la sécurité des corps diplomatiques. Mais avant que nous puissions vous perdre en ligne, vous parliez de l'accord bilatéral signé entre des États, notamment la RDC et l'Italie, et l'accord signé entre la RDC et l'Union européenne, dont l'Italie est membre. Alors, comment réagissez-vous, monsieur Augustin Mangemoussi?
Au fait, comme je vous ai dit au début, la RDC a signé des accords avec l'État italien depuis 1960. Nous avons des rapports qui sont excellents avec la République d'Italie, mais bien entendu, après, nous avons signé des accords avec l'Union européenne, et dans le cadre de ces accords, la RDC est censée tenir, protéger les diplomates qui sont dans son territoire. Je vais vous dire des choses, M. Gérard. Les articles 25 et 26 de la dite convention, c'est-à-dire la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, nous dit que l'État créditaire accorde toute facilité pour l'accomplissement des fonctions de la mission, c'est-à-dire les fonctions de la mission de l'ambassadeur. Okay? Il appartient à la République démocratique du Congo de pouvoir lui faciliter la tâche de sa mission. D'ailleurs, l'article 26, si je ne m'abuse, nous dit sous réserve de ses lois et règlements. Au fait, le diplomate n'est pas libre en soi, sous réserve des lois de la République. C'est-à-dire, avant de se déplacer, il doit au préalable informer le ministre des Affaires étrangères de qui et il dépend. C'est-à-dire, il ne peut pas voyager à plus de 2000, 3000 kilomètres dans une zone rouge sans que le ministre soit au courant, et d'ailleurs, sans même que l'autorité territoriale, dans l'état d'espèce, je peux parler de l'administrateur du territoire de Mirandongo, sans que même l'autorité territoriale soit au courant, je ne sais pas. Nous ne pouvons pas tirer les conclusions hâtives maintenant. Laissons à la justice, aux enquêteurs, le soin de faire le travail. Et nous saurons, dans les jours à venir, départir les responsabilités. Quant à moi, je me pose des questions. La question de son invitation, pourquoi il a été invité par les PAM, et que les PAM ne soient pas en mesure d'informer les autorités locales, si pas les autorités nationales. Deuxièmement, pourquoi on a laissé un diplomate de haut rang, ambassadeur de son État, arriver au Congo depuis 2019, seul, avec son carabinier, un garde du corps, dans une zone rouge? On laisse entendre que non, la zone était sécurisée. Quelle zone sécurisée?
Est-ce que monsieur Augustin Mangemoussi, quand on lit quand même le communiqué du protocole d'État, est-ce que ce n'est pas un aveu de la défaillance de services de sécurité?
Non. Monsieur Juillet, il ne faut pas donner l'impression que c'est l'État congolais qui est fautif dans ces cas. Non. L'État congolais n'a pas pu assurer la sécurité du diplomate parce que l'État n'a pas été informé dans les temps. Sinon, l'État devrait simplement escorter les diplomates. C'est un diplomate de haut rang. Ce n'est pas un conseil d'ambassade. Ce n'est pas un attaché culturel. Ce n'est pas un secrétaire d'ambassade. C'est lui-même le chef de la mission diplomatique.
Est-ce possible qu'une personnalité de tel rang puisse voyager en catimini?
Non. Au fait, c'est
avec tous les services de sécurité, la DGM,
la MONUSCO vont nous éclairer comment un ambassadeur de son rang peut voyager dans une zone rouge sans au préalable que le ministre des Affaires étrangères soit informé, tenu informé, et dit au pire l'administrateur du territoire ou le gouvernement de la province du Nord Kivu. C'est ça le problème. Parce que si le gouvernement était informé, il allait informer les services sous sa juridiction de pouvoir accompagner l'ambassadeur. Au pire, même le chef du quartier ou le chef de l'administration du territoire.
pouvait alerter les services compétents pour pouvoir venir en aide à l'ambassadeur. Nous ne savons pas, nous ne savons pas les responsabilités à ce niveau-là. Raison pour laquelle je vous demande, je demande aux auditeurs qui nous suivent maintenant, que nous puissions nous apaiser, que nous laissions aux enquêteurs, c'est-à-dire et à l'Union européenne, et au PAM, et à la MONUSCO, le chef d'enquêter, sans oublier que l'État congolais lui-même aussi doit enquêter pour essayer un peu de nous
d'éclairer,
expliquer
là-bas
ce qui s'est passé.
Alors, en droit international, une telle situation, quel effet peut-elle produire dans les relations entre des États?
Dans les cas d'espèce, il n'y a rien. Si le diplomate était tombé sous la responsabilité du gouvernement congolais, d'abord le gouvernement congolais allait présenter ses excuses, ses regrets et ouvrir une enquête pour essayer de pouvoir comprendre sa part de responsabilité. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas l'État congolais, c'est plutôt les gens qui l'ont invité sans au préalable informer l'État congolais. Et ça, suivez le ministre des Affaires étrangères italien, monsieur
Mario.
Di Maio.
Mario.
Qu'est-ce qu'il a dit?
La responsabilité de la RDC n'est pas engagée.
Oui.
Il a dit la responsabilité de la RDC n'est pas engagée.
Oui, il a dit nous attendons de la part de la MONUSCO et je crois
de PAM
qu'on nous éclaire sur les drames. Voilà, je n'ai pas suivi le ministre dire que nous attendons de l'État congolais, c'est plutôt l'État congolais dans ses responsabilités. L'État congolais ouvre une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est quand même son territoire. Et aussi, il va de l'image de la République. C'est pourquoi l'État congolais a ouvert une enquête pour essayer de comprendre ou de lucider ces drames. Mais sinon, sur le plan de la responsabilité pénale ou de la responsabilité civile, le droit international coutumier est clair. Ils peuvent circuler, je parle bien du droit international coutumier, ils peuvent circuler sur l'étendue du territoire, mais sous réserve d'informer l'autorité qui est compétente à la matière.
Alors, il y a un auditeur qui voulait avoir un cœur net, et lorsqu'il dit que c'est par élégance que les ministres plénipotentiaires ou encore l'ambassadeur peut informer l'autorité locale. C'est simplement par élégance, parce que c'est ça l'esprit et la lettre de la Convention de Vienne. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, c'est-à-dire il l'a dit, il a raison. Je vous ai dit que l'État congolais est appelé, selon les articles 25 et 26, à faciliter le déplacement de diplomates sur l'étendue du territoire. Et quand il parle par élégance, il doit aussi s'en
voilà, on a
la coutume du droit international, à la différence d'un principe universel, jus cogens, que la coutume soit appliquée dans les cas d'espèce, c'est quoi? C'est-à-dire, d'habitude, les diplomates voyagent un peu partout dans les territoires, pas simplement en RDC, partout au monde, c'est déjà la coutume, et c'est aussi la coutume que l'État leur garantisse la sécurité. Mais ils doivent, et même si ils pensent que l'endroit, le territoire qu'ils sont appelés à visiter est en insécurité, informer l'autorité, afin que l'autorité prenne ses responsabilités.
Alors, avant de retrouver encore...
n'est pas le cas dans les cas d'espèce.
Alors, avant de retrouver encore les auditeurs, si vous pouvez nous éclairer également là-dessus, lorsqu'on parle d'un État dans un État, dans un autre État, c'est-à-dire l'Italie est au Congo, un État dans un autre État.
Ah non, celui qui a appliqué la formule, on a mal expliqué, l'Italie n'est pas un État dans un État. L'Italie, en RDC, c'est un État qui a signé des accords bilatéraux avec le Congo. Ok, il y a un accord bilatéral entre l'Italie et le Congo. Je vous ai dit qu'il y a aussi des accords entre nous et l'Union européenne. C'est pas un État dans un État, mais vous devez comprendre ceci. Une mission diplomatique, c'est déjà un État dans un État. C'est pourquoi ils ont des drapeaux, des symboles qui représentent leur nation ou leur pays. C'est-à-dire que quand vous êtes devant une mission diplomatique, et les bâtiments, et les véhicules, tous sont inviolables. Parce que c'est un État qui est dans un État. Mais il y a un préalable. L'État accréditant doit toujours informer l'État accréditeur des mouvements qui s'exercent en dehors de l'enclos diplomatique. C'est important. Mais comme je vous ai dit que le droit international coutumier accepte une certaine pratique qui est coutumière depuis la nuit des temps, ils peuvent circuler librement, mais s'ils estiment que leur cortège ou leur sécurité est en danger, ils doivent faire appel à l'État accrédité, ce qui est tout à fait normal.
Voilà, on va poursuivre ce débat avec les auditeurs également. Monsieur Augustin Maguemos, si je rappelle que vous êtes chef des travaux et analyste sur la question de la géopolitique et également sur des questions internationales. Alors, on va prendre Sylvain qui est à Bounia, qui nous a rejoint. Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoint. Quel est votre commentaire, Sylvain?
Oui, il faut d'abord dire que dans la pratique des relations internationales entre les États, les choses ont tellement avancé que les rôles initiales et traditionnels de représentation de l'État a pris une autre allure, jusqu'à aller même dans les business, dans l'humanitaire et dans d'autres choses, dans d'autres secteurs. Quand j'intervenais, je suivais celui qui intervenait avant que moi je ne puisse parler. Et il faut, je pense qu'il ne faut pas dérouter les auditeurs. Ce qui est vrai, ce scandale diplomatique avec la mort de M. Luca en tant qu'ambassadeur de l'Italie chez nous, doit susciter ces questionnements autour du rôle de l'ambassadeur, surtout dans les contextes de la RDC. Puisque ici, ce qui pose problème, c'est le contexte politico-sécuritaire de l'Est de la RDC. Et c'est là où moi j'ai dit, tout ambassadeur, et vous savez que ce n'est pas seulement Luca qui se promène là-bas. On l'a vu avec M. Hammer ici, l'ambassadeur des États-Unis, et d'autres aussi. Et les gens disent, et aujourd'hui les gens croient que pratiquement l'Est du Congo, c'est un marché où tout le monde peut aller acheter son maïs et même son haricot aller manger. Et ce qui n'est pas normal. L'ambassadeur, c'est un homme hautement politique et hautement diplomatique. En réalité, on ne peut pas le retrouver à Bounia sans que les autorités soient informées. Et sa protection est extrêmement élevée. Et c'est là où moi je dis que le gouvernement de la République n'essaie pas d'espionner les ambassadeurs chez nous. Puisque n'oubliez pas, le principe d'espionnage en diplomatie est un grand principe. Lorsque on accrédite un ambassadeur, il représente son État. En réalité, il fait l'espionnage diplomatique et politique. De la même façon, là où il est accrédité, il est sous l'espionnage. Et c'est comme ça, ça permet à ce qu'il n'y ait pas des incidents diplomatiques. Puisque de toutes les façons, il faut qu'on le dise. Nous sommes dans un principe gagnant-gagnant. Personne ne vient ici à l'église. Lorsqu'un ambassadeur est là, il essaie de comprendre le pays dans lequel il est pour que les intérêts de son pays puissent avoir gain de cause. Et c'est comme ça, mais c'est nous qu'on le retrouve ici, dans les trucs des humanitaires. Je vis un élément important dans cette histoire-là. Un élément important, c'est qu'il se retrouve parmi les humanitaires. Est-ce que ceci voudrait dire qu'il voulait évaluer toutes les œuvres
les actions humanitaires
que son pays réalise au Congo? Il faut se poser des questions.
Si oui, parce qu'on se dit, l'Italie est grand pourvoyeur au niveau du PAM, parce que toutes les actions du PAM, en grande partie financées par l'Italie, c'était tout à fait évident qu'en tant que numéro un de l'Italie ici au Congo, d'aller se rendre compte de la situation sur le terrain, les dons qu'ils ont donnés en ce qui concerne les cantines scolaires.
Mais là, il ne faut pas oublier. Vous avez totalement raison en faisant cette analyse. Vous avez totalement raison. Mais il ne fallait pas oublier une chose. C'est que des personnalités à ce rang-là, vous savez que dans notre pays, on peut les comparer au président italien chez nous, puisqu'il représente son pays. Vous avez vu un président voyager dans des zones telles que là où il est mort, et moi je prends tout l'est du pays, où nous vivons l'enfer, les carnages humains, l'insécurité permanente. Donc il y a eu vraiment une imprudence du côté de son organisation, ça veut dire de son bureau, pour qu'il se retrouve dans cette situation-là. Et ici, il faut qu'on se le dise, la conséquence est que c'est l'État italien qui a perdu. Et en défaveur de la RDC, bien sûr, n'oubliez pas, c'est que dans les relations internationales, la coopération des États, des choses comme ça peuvent créer des incidents diplomatiques graves, ce qu'il faut éviter en amont. Il faut que la RDC puisse avoir cette capacité de sommer l'État italien, de ne pas permettre à ce que ces répondants au Congo se comportent de cette façon-là.
Merci. Et si je vous ai dit... Voilà, merci beaucoup Sylvain. Merci beaucoup de nous avoir donné tous ces éléments. Alors on va prendre Maître François qui est à Kinshasa. Maître François.
Oui, bonjour.
Bonjour Maître François, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, moi personnellement, je salue la décision prise par les autorités de notre pays de rappeler à l'ordre tous les diplomates accrédités dans notre pays. Vous savez, monsieur, les deux conventions de Vienne qui fondent les relations amicales entre les États sont claires à ce niveau-là. Même s'il faut analyser les deux articles, qu'on combine les deux articles, l'article 41 de la Convention des 26 les relations diplomatiques et l'article 55 de la Convention des 26 les relations consulaires disposent, sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toute personne qui bénéficie de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et les règlements de l'État où ils sont accrédités. Mais ce que nous constatons à ce temps, que certains diplomates commencent à déborder. À déborder parce qu'au lieu d'assumer leurs fonctions comme il faut, ils sont en train de se focaliser dans d'autres activités qui n'est pas de leur mission. Et voilà, nous recommandons même au gouvernement congolais d'être très vigilant parce que la diplomatie en soi est l'art de plonger dans des eaux troubles sans faire de touffe. Les diplomates sont des gens qui viennent dans un pays, mais ils viennent avec plusieurs casquettes, notamment l'espionnage, le camouflage et d'autres artifices. Et dans notre pays, nous savons l'histoire. Le pays est trop infiltré, donc nous devons tous être en mesure de barrer la route à toutes les manœuvres que d'autres étrangers peuvent venir faire dans notre pays. Voilà un peu ce que je voulais recommander. Donc, les diplomates doivent respecter les lois et les règlements de notre pays. Ce n'est pas dit que leurs privilèges ou soit les immunités qui jouissent, qui doivent les épargner au non-respect des lois et des règlements de notre pays. Voilà un peu ma contribution.
Voilà, merci beaucoup François, Maître François, d'avoir appelé de Kinshasa. Et Lilo Kwavu, vous êtes à Kinshasa également. Eli, vous êtes avec nous?
Oui, allô. Bonjour Radio Capi.
Vous avez la parole, Eli.
Oui, en tout cas, je présente premièrement mes condoléances à la famille éprouvée de l'ambassadeur italien qui y était tombé sous la main de groupes armés à l'Est. La préoccupation la plus sensationnelle aujourd'hui, c'est celle que la communauté internationale, qui depuis plusieurs décennies était au courant et elle est aussi au courant de plusieurs exactions, de plusieurs atrocités qui se commettent dans cette partie de la République et que jusqu'à présent, il n'y a aucune solution. Et qu'aujourd'hui, l'une des grandes personnalités de la communauté internationale, parce que l'ambassade aussi, la représentation des États, c'est quelque chose qui est aussi sous les yeux de la communauté internationale, un ambassadeur est tombé sous la main des groupes armés à l'Est. Et nous avons compris partout, par-ci, par-là, certaines déclarations qui viennent de partout, dans des médias internationaux, tout comme nationaux, juste à la suite de la mort d'une seule personne. La mort d'un individu, la mort d'une seule personne, et nous avons vite vu plusieurs déclarations, les innombrables déclarations venues de partout dans le monde. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes, plus de milliards de personnes qui sont tombées, qui sont mortes aujourd'hui dans notre pays, et que la communauté internationale ne trouve pas solution par rapport à la guerre qui se passe.
Est-ce que, Eli, pensez-vous qu'une telle situation pourrait avoir un impact très, très, très important dans la lutte contre les groupes armés dans l'est du pays?
Oui, allô, je vous reçois difficilement, Gilles.
Bon, juste une question de curiosité. Est-ce que pensez-vous qu'une telle situation qui est survenue pourrait avoir un impact positif dans la lutte contre les groupes armés actifs dans l'est du pays?
Mais en tout cas, oui, parce que cette situation doit interpeller les dirigeants des différents États. Et puis, doit aussi interpeller les dirigeants de plusieurs États de la région de l'Afrique. Parce que comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, il y a plusieurs décennies, les Congolais sont tués, sont torturés, les Congolais sont massacrés. Mais comment peut-on expliquer jusqu'à présent il n'y a pas de solution? Et d'ailleurs, s'il faut encore revenir, il y a aussi un élément important, c'est que le Congo n'est pas un macrocosme politique ou un endroit où plusieurs autorités venues de partout qui vont venir chercher à détruire notre pays. Parce que nous avons compris
qu'il y a aussi un élément. Merci beaucoup,
Élie. Il n'avait pas la lettre.
Il n'avait pas la lettre l'autorisant.
Il était parti pour avoir la lettre de l'autorisation.
Merci beaucoup. Mais n'oubliez pas, Élie, que nous sommes sous régime d'information, comme l'a dit un auditeur, et qui a été d'ailleurs appuyé également par notre invité, mais on va revenir quand même. Il faudrait informer, parce que c'est sous réserve, selon l'esprit et la lettre de l'article 25 ou encore l'article 26 de la Convention de Vienne. Alors, merci beaucoup, Élie. Alors, David, vous êtes également à Kinshasa. Vous nous avez rejoint, vous êtes un acteur politique. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est de quel parti politique exactement?
Oui, je suis le haut cadre du parti politique Ma Part pour le Congo, MPC. Ma Part pour le Congo, MPC, initié par le patriarche Étienne Tshisekedi Tshisekedi.
Donc le fils Tshisekedi.
Oui, le fils aîné au patriarche Tshisekedi.
Alors, par rapport à la situation qui prévoit actuellement, est-ce que vous pouvez avoir un commentaire? Quel est votre regard politique lorsque un ambassadeur trouve la mort sur, disons, dans une zone déclarée rouge, une zone avec insécurité? Et aujourd'hui, pensez-vous que ça va dénaturer des relations entre les deux États?
Oui, par rapport à la préoccupation, je pense qu'il faut se demander les circonstances de la mort de l'ambassadeur Luca de l'Italie, d'heureuse mémoire. Mais de prime abord, je tiens à présenter mes condoléances au nom de notre initiateur Étienne Tshisekedi Tshisekedi, ainsi qu'au nom du président du parti Moses Junior Ngoya, à la famille diplomatique accréditée à Kinshasa dans notre pays, à la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'au pays ami de l'Italie. Avant de prendre position, moi je pense qu'il faut décrire les circonstances de la mort de l'ambassadeur Luca. Je pense que dans tout le pays, il y a des dispositions par rapport à la diplomatie, il y a aussi le principe de Vienne, ainsi de suite. Et que par rapport à cela, lorsque un ambassadeur de sa taille pouvait effectuer un déplacement vers une zone à haut risque, une zone minière, il y a quand même des principes et des dispositions préliminaires qu'il fallait respecter. Et la première chose, à ce que je sache, et l'ambassadeur, lorsqu'il peut se déplacer, il peut informer. Il peut informer le pays, le ministère des Affaires étrangères. Et on informe avec beaucoup plus de détails pour permettre au pays de prendre des dispositions sécuritaires les plus appropriées. Et lorsque nous examinons la note écrite et adressée au pays, il n'y a pas eu exactement beaucoup de précisions sur la destination. On a parlé de Neuf-Kivu, on a parlé de la visite de la communauté italienne. Et ça ne pouvait pas faciliter des dispositions utiles. Et là, je pars même sur base de ce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux, lorsqu'un cadre, un officier de la police du Nord-Kivu qui s'étonne de la mort d'un ambassadeur qui soit tombé dans la zone à haut risque, une zone minière. Ce qui veut dire que que son déplacement n'a pas été totalement
signalé.
N'a pas été connu totalement par les autorités. C'est ce qu'il veut dire, en principe, que très prochainement, lorsqu'il s'agit d'un tel déplacement, que l'on se comporte comme se comporterait tout ambassadeur dans un autre pays. Donner des directives, donner de précisions sur le parcours, sur tous les endroits que vous pouvez aller, pour permettre, dans le cas là, on pouvait permettre le ministre des Affaires étrangères d'informer les ministres de quoi, de l'intérieur, et celui de l'intérieur pouvait informer le gouverneur, et de la part du gouverneur, il pouvait prendre des dispositions utiles au cours du conseil de sécurité provinciale, informer l'administrateur du territoire et arriver à prendre toutes les dispositions. Ce qui n'a pas été le cas. Le gouvernement, à ce que je sache, par rapport à cette note qui n'était pas bien précise, n'a pas été suffisamment informé de la chose. Mmh. Plus encore, vous savez, M. J., hein, que dans l'Est, là, à cause de la situation confuse d'insécurité, il y a une réunion hebdomadaire de tous les organismes internationaux, mm-hmm. que l'on appelle les réunions hebdomadaires opérationnelles, mm-hmm. au cours de laquelle toutes les dispositions sécuritaires, toutes les études sont approfondies à propos des comportements adoptés par rapport aux actions envisagées dans des zones minières, dans des zones où on a des activités par rapport au plan d'action de chaque
agence,
de chaque institution et de chaque organisation. Mm-hmm. Et si le quoi, monsieur l'ambassadeur, que nous regrettons la mort aujourd'hui, avec l'oreille attentive, parce que cette rencontre, cette réunion hebdomadaire est présidée par le responsable de l'OCHA. Celui-là pourrait lui donner toutes les informations utiles pour que de telles choses ne manquent pas. Et vous voyez, si les images qui sont à notre portée sont vraies, un ambassadeur en face de lui, derrière lui,
un carabinier.
Avant lui, il y a un jeune garçon. Et vous connaissez que nous décrions la présence des enfants
dans les secteurs
miniers. Des zones minières. Mmh. Un enfant qui avait mis cet enfant.
Voilà, il y a toute cette problématique là.
Et quand l'ambassadeur l'a contacté, si c'est réellement ça, d'après les images, vous pouvez vous demander comment cet ambassadeur peut se faire conduire par un enfant de cet âge-là.
Merci.
Je pense que
Monsieur David,
prise, non pas par le gouvernement central qui pouvait être
éviter,
qui pouvait être aidé par cet ambassadeur, mais par lui-même, à ce que je sache.
Merci beaucoup, Monsieur David, de nous avoir apporté tous ces éléments. Alors, en tant qu'un regard politique par rapport à cette question, merci. Ce n'est qu'une partie remise. On va vous retrouver donc dans un autre débat de parole aux auditeurs où vous aurez suffisamment également le temps de nous poser des regards politiques par rapport à plusieurs questions. Merci beaucoup, Monsieur David, d'avoir appelé les Kinshasa. Vous êtes politique, vous appartenez dans le parti politique MAPAR pour le Congo, MPC, de Étienne Tshisekedi, le fils aîné du patriarche Étienne Tshisekedi. Merci beaucoup. Hein. Alors, on va prendre Amos. Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez la parole, Amos. Quelle est votre contribution?
En fait, j'étais d'abord à partager ma compassion avec la famille de tous les illustres disparus. Je vois l'ambassadeur, je vois son garde du corps, je vois aussi Mustapha qui est digne fils congolais. En analysant la décision du gouvernement congolais, moi je constate à mon niveau que c'est une décision irresponsable et ça prouve à suffisance que jusque là, la RDC demeure un état effondré. Parce que quand on dit les chefs diplomatiques ne doivent plus se déplacer sans pour autant informer les autorités ou sans l'autorisation des autorités congolaises, je veux bien. Mais que dit le gouvernement congolais pour nous citoyens congolais? C'est ça la grande question JR. Parce que le carnage à Beni, à l'est du Congo, n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps. Mais on n'a jamais vu le gouvernement congolais être impliqué ou être motivé comme on l'a vu avec la mort de cet ambassadeur. C'est-à-dire, pour moi, les autorités congolaises considèrent beaucoup les étrangers que les citoyens congolais. Et pourtant, le gouvernement congolais a pour première mission régalienne sécuriser le peuple congolais, c'est bien, et tout le monde qui vit sur le sol congolais. Mais à mon avis, je constate que notre gouvernement a été plus touché par la mort de l'ambassadeur au détriment des milliers et des milliers de Congolais qui sont en train d'être égorgés à bête comme des cochons. Ça, c'est très grave. Et ça énerve. Au lieu que le gouvernement congolais fasse tout pour remettre la paix à l'Est, on est en train de constater que plutôt le gouvernement congolais a laissé faire que les Congolais soient égorgés et que comme on vient de tuer un ambassadeur aujourd'hui, il faut que le gouvernement congolais se réveille. C'est inacceptable et ça prouve à suffisance que nous avons pensé que nous avons eu le changement et pourtant non. Parce que ce qu'on condamnait avec le pouvoir sortant, c'est ce qu'on continue à vivre aujourd'hui. Et ça montre à suffisance qu'il faut que les choses puissent changer. Je voudrais dire que l'être humain...
Oui, rapidement, Amonce.
Parce qu'il n'y a pas de différence entre le sang du noir ou le sang du blanc. Tout le monde est humain et il a droit à la sécurité, il a droit à la protection.
Voilà, merci beaucoup. Merci
moi, je
beaucoup,
pense Amonce. Que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, même la communication de nos autorités, la communication du ministère des Affaires étrangères, prouve à suffisance qu'apparemment on serait géré et c'est vraiment énervant et révoltant.
Merci beaucoup. Alors Justin, nous restons à Bukavu. Justin, vous êtes également à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Alors Justin, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne. Bonjour Radio Tati, bonjour Radio de la Fille.
Voilà, alors vous avez la parole, Justin.
Oui, en fait, lorsqu'on parle de stagiaires, c'est que je dis quand je commentais, parce qu'on a comme l'impression qu'on a des ambassadeurs qui ne savent pas exactement comment se comporter pendant l'exercice de leur mission dans un pays étranger. Parce que, au fait, il n'est pas compréhensible qu'un ambassadeur puisse aller se déplacer dans une autre province alors que l'autorité urbaine ou même provinciale n'est pas saisie au préalable. C'est à ce niveau-là qu'on se dit que même ces ambassadeurs ont tort. Le pays qui les a envoyés en mission, peut-être, n'a pas mis à leur disposition
tous les moyens possibles.
Une ligne de conduite à suivre pendant l'exercice de...
Voilà, on ne saura plus aller loin avec vous. Justin, s'il vous plaît, on ne saura pas aller plus loin parce que le temps nous fait défaut. On va retrouver notre invité tout à l'heure. Augustin Manguemo, si vous êtes avec nous en ligne.
Ouais, j'ai...
Alors, vous avez suivi cette longue série des auditeurs. Il y a quelque part un auditeur qui a insisté beaucoup plus sur les principes d'espionnage diplomatique et politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut, on peut comprendre par là?
Au fait, parmi les fonctions essentielles d'une mission diplomatique, il y a ce qu'on appelle l'information. L'information, c'est entre guillemets l'espionnage. Il est, vous savez, dans des missions diplomatiques, vous avez des attachés, vous avez des secrétaires d'ambassade qui font aussi ce qu'on appelle l'activité à la fois licite et illicite, c'est-à-dire espionner positivement ou négativement pour le condamner l'État. Ce que tous les États du monde le font depuis la nuit des temps, ça, ce n'est pas un problème. Le problème... Monsieur Gir, nous devons nous poser des problèmes. Moi, je ne sais pas comment nous voulons nous approprier d'une chose qui ne nous concerne pas. Un, le ministre Luigi Di Maio, lui-même, il dit qu'il rappelle que ce sont les PAM et la MONUSCO qui devraient, en temps normal, sécuriser les diplomates. Ça, c'est un. Or, lui-même, le ministre, quand il le dit, le ministre lui-même se commet l'imprudence de le dire. Il devrait, en temps normal, informer le ministre, notre ministre des Affaires étrangères de qu'il y ait des pratiques diplomatiques. Je dis bien des pratiques diplomatiques, parce que vous allez constater une chose. Hein. Au fait, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques a bien explicité les choses. Et que tout ce qui n'est pas expressément prévu par la Convention de Vienne était directement expliqué dans ce qu'on appelle le droit international coutumier, c'est-à-dire l'usage, la coutume. Pour un diplomate, c'est pavaner sur le territoire national, comme je le disais, c'est pas un péché. C'est l'État accrédité qui est censé lui faciliter la tâche même de sa circulation et aussi sa tâche de pouvoir se mouvoir sur le territoire national. Mais à une exception, est-ce qu'ils ont demandé l'accord ou l'assistance au gouvernement congolais? Ça, c'est la question. Et si
ils l'ont fait. Ça devrait se faire au niveau du ministère des Affaires étrangères. Or, à notre connaissance,
ils l'ont pas fait.
Notre ministre l'ignore même.
Ça,
c'est déjà un problème. L'État congolais doit aussi enquêter. L'État congolais doit enquêter. S'il y a de liberté de déplacement et de circulation, ce qui est contenu dans la
Convention de Vienne,
ce qui est tout à fait normal, mais cette liberté est subordonnée
sous réserve
aux lois et aux règlements de l'État accrédité. En ce qui concerne les zones dont l'accès est compliqué pour des raisons de sécurité, les séjuriers, ils doivent au préalable
obtenir l'autorisation.
L'autorité compétente qui n'est que le ministre des Affaires étrangères.
Voilà, on ne saura pas aller plus loin.
Le ministre des Affaires étrangères de pouvoir mettre à la disposition de la mission ce qu'on appelle la sécurité.
Merci.
Je reviens encore. Je suis la veuve. La veuve qui nous dit que l'ambassadeur
a été trahi par un de ses proches.
A été trahi. Voilà. Ce sont des choses que l'État congolais doit enquêter. A été trahi. Qui l'a trahi? Qui l'a trahi?
Voilà.
Qui a fait une invitation des femmes?
Oui.
Est-ce que c'est les femmes qui l'a trahi?
Voilà.
Qui dans les femmes l'a trahi? Ce sont des questions que nous devons poser, parce que nous allons au-delà de ce que nous ne pouvons même pas poser comme problème. D'ailleurs, je vous pose encore, je vais analyser une chose. Monsieur Juillet, on parle du terrorisme à l'est de la République, mais comment ces pays restent sous embargo jusqu'à aujourd'hui, alors que nous sommes terrorisés? Alors que les habitants de l'Est sont terrorisés. Ils meurent comme des mouches.
Nous ne pouvons pas acheter des armes parce que nous sommes sous embargo.
C'est ce qu'un de mes étudiants, il est en train de préparer son TFC. Il dit qu'il y a la passivité du Conseil de sécurité à la matière.
Voilà, on va y revenir, Augustin Manguemossi. On va y revenir, le temps nous fait défaut. On va s'arrêter par là, en tout cas pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté d'interagir ensemble avec les auditeurs sur cette question. Merci encore de l'intérêt que vous nous accordez, hein, surtout par rapport à votre disponibilité. À très bientôt, Monsieur Manguemossi.
Merci à vous.
Voilà, nous disons également merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. On va prendre rendez-vous dans un autre débat, en tout cas demain et après-demain. Nous allons encore vous inviter à participer dans cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.